d'être noir encore. Sur un quiproquo, des balles te traversent le corps. J'ai posé mon champ lexical sur un champ de coton. J'ai vu mes lettres maltraitées sur la plantation. Abolition de l'esclavage et de son héritage. Effacer de l'inconscient la construction du sauvage. Bête à dompter, animal à mettre en cage. Homicide surprise organisé par le voisinage. Qu'elle en fait couler du sang, cette couleur de peau. Du sol de Géorgie aux terres du profond Congo. Le rêve américain n'a cesse de finir en lambeaux. Quand la séance de footing se transforme en tombeau. Bientôt le piège se referme. L'expression de la haine maximale est à son terme. Juste un mot de poésie pour un mot d'herberie. Étrange fruit, ces corps noirs pendus aux États-Unis. Un monde abruti en sécheresse d'empathie. Où il y a moins de bibliothèques qu'il n'y a d'armurerie. La lumière de son âme vous a-t-elle brûlé les yeux? Au point de ne pas avoir le choix que d'ouvrir le feu. Perpétuer l'idée de la race inférieure avec le privilège d'être protégé par un procureur. Est-ce que rien ne change pour le noir africain? De la conférence de Berlin, l'indécence de Guerlain. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. On est toujours dans le même sujet. Tenter de vivre ensemble, c'est toujours le même projet. On est plein d'espérance, d'amour et de rêves à souhait. Mais la tolérance prend toujours les mêmes crochets. Les traités de paix, on les remet à la semaine prochaine. On procrastine car on est motivé que par la haine. L'obsession de la domination, le grand problème. La hiérarchie des races, le mépris en théorème. Inscrit dans les mœurs et les organes du système. Inscrit dans les cœurs et dans les crânes des skinheads. Attention, les discriminants prennent une forme nouvelle. Mais dans les faits, le pouvoir nous impose les mêmes barèmes. Rythmé par le bruit des chaînes. Du fond de mon ADN, j'ai composé ce blues moderne. Les balles des officiers préfèrent la couleur ébène. Les violences policières écrasées sur mon abdomen. J'suis en détresse comme Adama. Les SOS finissent en PLS ou dans le coma. Dans le cauchemar, naviguer dans le coltard. Statistique des contrôles abusifs, j'suis dans le quota. J'ai ton genou sur ma nuque, j'suis dans le Minnesota. J'suis encore un esclave, ça n'a pas bougé d'un iota. J'ai les yeux gorgés de sang et le cœur vidé. Je vous entends plaisanter, mais moi je ne peux plus respirer. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial.
Qui tue un homme tue l'humanité. Mais qui tue un homme noir sera sans doute acquitté. Qui tue un homme tue l'humanité. Mais qui tue un homme noir sera sans doute acquitté. Qui tue un homme tue l'humanité. Mais qui tue un homme noir sera sans doute acquitté. Qui tue un homme tue l'humanité. Je suis George Floyd et Adama Traoré.
Ce matin, dans Ambiance Africaine, nous allons parler d'actualité avec nos invités déjà installés sur le plateau. Ibrahima Diallo nous rejoint et il est accompagné de Fatou Dieng. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venus nous parler de vos actualités à travers ce titre, Cœur Noir. C'est un titre, mais aussi un clip fort en message. Ce titre donc qu'on vient d'entendre à l'instant, Cœur Noir. Alors, Brahi, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Africa Radio. Alors, vous êtes artiste d'origine guinéenne, vous êtes né à Paris, vous avez grandi dans la banlieue parisienne. Vous évoluez dans le milieu du rap depuis les années 90. On vous a connu au sein du groupe Harcèlement Textuel. Vous avez décidé de mettre votre carrière en parenthèse et l'actualité vous a fait revenir avec notamment ce titre et un album solo en cours d'écriture qui sortira prochainement. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Alors c'est un titre assez particulier puisqu'il accompagne la pétition lancée par la famille de Lamine Dieng, décédée en 2007 à 25 ans à la suite d'une clé d'étranglement et d'un plaquage ventral. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, cette rencontre assez particulière est née du rassemblement lors du 2 juin dernier à Paris, rassemblement historique contre le racisme. C'est à ce moment-là que vous rencontrez Fatou Diagne qui vous accompagne ce matin. Bonjour.
Bonjour Aïssa et merci pour cette introduction, pour cette présentation. C'est tout à fait ça. La rencontre, elle s'est passée le 2 juin et j'ai rencontré la famille Diagne, comme toutes les autres familles de victimes et comme des milliers de personnes qui étaient ce jour-là présentes. C'était un rassemblement historique et j'aime bien le rappeler parce qu'on peut vite oublier avec le flux d'informations qu'il y a. Ouais. Mais c'est vraiment passé quelque chose de particulier cette date-là.
Vous y étiez ?
Exactement, ouais,
j'y étais, faut que je le précise. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce moment, quelles sont les émotions que vous avez ressenties, qu'est-ce qui s'est passé en vous ?
Il s'est passé une multitude de choses, mais ce que j'ai remarqué, c'est que, moi, je vis le racisme quotidien en France, comme beaucoup de personnes racisées. Et en fait, je pense qu'on a intégré pas mal de techniques ou de procédés pour en faire fi ou pour passer outre. Enfin, chacun a sa méthode, mais je pense que chaque personne racisée comprend, en fait, les mots que je suis en train de prononcer. On comprend vraiment, c'est des stratégies limites de guerre qu'on doit adopter.
Ouais.
Et ce jour-là, en fait, je m'en suis plus rendu compte parce que c'est tellement intégré qu'on se rend plus compte qu'on les fait. On les fait de manière complètement naturelle. Mais ce jour-là, c'était aboli. Tout le monde était prêt à écouter. Tout le monde était prêt à parler de sa propre expérience. Et surtout, il n'y avait pas de jugement. Donc, on était dans une bulle éphémère.
Ouais.
Et je savais que ça n'allait pas durer. Donc, il y avait une énergie, des émotions particulières. Il y avait quelque chose d'un petit peu guerrier. Il y avait une colère qui était là, et en même temps quelque chose de très pacifique. Vraiment, c'était très particulier. Je pense que toutes les personnes qui étaient présentes peuvent vraiment en témoigner. Et puis tombe le discours de toutes les familles, donc c'est à chaque fois très émouvant. Parce ouais. qu'on peut parler de racisme qu'on subit. Moi, en tant que Noir de France, effectivement, j'ai subi le racisme. C'est pas une hérésie que de dire ça. Mais lorsque ça touche des familles de victimes et qu'elles expliquent comment le racisme se met en place et que la justice est en face et que c'est organisé, ça touche encore plus, ça se précise encore plus. Donc les discours se suivent et puis j'entends le discours de Fatou qui est très calme, très posé. Et nous qui sommes en face, on ressent la peine, on ressent la colère, on a envie de... On se dit, c'est incroyable.
On se met à la place de ces familles.
Mais c'est incroyable. Quand on entend Fatou parler, on se dit, on a envie de se révolter. En fait, et c'est ce calme, en fait, moi, qui m'a interpellé. Cette précision est de dire qu'il y a des choses très simples pour aider. C'est signer les pétitions. Et nous devons faire arrêter cette technique d'immobilisation mortelle qui sont enseignées dans les écoles de police. Moi, j'avais assisté en 2010 au rassemblement demandé par Assa Traoré. Enfin, il ne l'avait pas demandé, mais c'était son frère venait de nous quitter. Enfin, sa vie venait d'être arrachée. Puis il y a eu un rassemblement qui a été fait après 40 jours, après son décès.
Ouais.
Je m'étais rendu à Beaumont-sur-Oise. Je l'avais rencontré. Je lui avais présenté mes condoléances à ses familles aussi. Puis j'étais très frustré parce que je ne savais pas comment aider. Je ne savais pas comment faire. J'étais juste là, présent, mais j'étais frustré. Là, 2020, le 2 juin, il s'est passé ce qui s'est passé aux États-Unis. Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd, c'était trop. Le 2 juin tombe, j'entends le discours de Fatou. Elle m'indique clairement ce qu'il faut faire pour aider. Je le comprends, ça fait tilt. Et en rentrant chez moi, j'avais déjà commencé à écrire quelques bribes par rapport à ce morceau. J'avais quelques idées parce que ce qui s'était passé aux États-Unis m'avait vraiment frappé. Mais là, ça s'était précisé. C'est là où le terme du plaquage ventral, j'ai décidé d'en faire une métaphore et de rallier ça à ce qui s'est passé en termes historiques par rapport à la période de l'esclavage et à la période de la colonisation, et de dire que ce que subit le corps noir depuis ces périodes-là, on n'en est pas si éloigné, et avec ces pratiques barbares d'un autre temps, enfin, qui n'auraient jamais dû exister, on y est encore, en fait. Donc c'est ça la métaphore du morceau. Donc les émotions, elles étaient toutes là, il y avait de la colère, il y avait de la haine, mais j'ai surtout été inspiré par le calme et la précision de Fatou, et surtout d'être dans une action concrète. Parce que quand on subit ce racisme-là, ouais. on peut être éparpillé, tu vois. On souffre tous et toutes de choses, on ne sait pas comment agir, et c'est facile d'être justement emporté par les émotions et ne pas savoir comment agir. Là, ce qui m'a permis, moi, de rentrer en action, c'est qu'il y avait quelque chose de clair et de défini dans le discours.
Alors tu as dit, j'ai vu la dignité incarnée par Fatou Dieng et Assa Traoré, des géantes aux prises de paroles fermes, justes et puissantes. Elles mobilisent, elles fédèrent, elles éclairent, elles donnent de l'espoir et du sens. Et justement, de voir que cette lutte est incarnée par des femmes noires, qu'est-ce que ça suscite chez toi, Aurélie ?
Merci pour ta question. C'est vrai que j'ai écrit ça. J'ai mis le pronom personnel elle à plusieurs reprises, mais je l'ai pas fait volontairement. Tu vois, j'étais pas dans une dynamique de me dire tiens, je vais mettre les femmes en avant parce que ça fait aussi bien. Tu vois, surtout en ce moment, ouais. C'est juste que c'est la réalité dans nos familles, quoi. Moi, je pense à ma mère, je pense à mes tantes, je pense à mes sœurs, je pense à ma cousine Tigui que je salue, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Les femmes de ma famille, elles portent toujours en fait les problématiques avec une discrétion, une pudeur et une forme d'intelligence qui me parle en fait. C'est que on les voit prendre les coups, il n'y a pas de plainte, et elles ont un objectif final très précis, un objectif final très précis de réussite pour le bien collectif. C'est qu'à la fin, c'est la famille qui gagne. Donc le petit mal que toi, tu vas lui faire, ça va être piqué par, je ne sais pas, quelque chose du quotidien, elle ne va pas le regarder. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé chez ma mère, par exemple. Donc un esprit d'abnégation incroyable. Et on pourrait croire, à mal y regarder, on pourrait croire que c'est soit de la faiblesse, soit des personnes qui ne comprennent pas bien, mais il n'en est rien, quoi. C'est un courage, un esprit incroyable que forcément j'ai retrouvé dans ce discours-là chez Assa et chez Fatou, quoi. Et chez Ramata, qui avait initié ce mouvement, le collectif Vivolé, après la disparition de Lamine. Donc que ce soit des femmes qui le portent, en fait, c'est très logique pour nous, ouais. Connaissant nos familles. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'aux yeux du monde, on puisse l'exposer. Que ça parte de là, ça me fait plaisir qu'on puisse l'exposer. Et après, c'est à nous aussi, hommes de cette culture, de faire le passage de relais. Comme je dis souvent, ce morceau, c'est comme pour les marches. Quand on va marcher, moi j'ai marché le 13, j'étais au rassemblement le 2. Lorsqu'on va marcher auprès des familles des victimes, il y a toujours quelque chose qui est dit par les organisateurs. C'est toujours bien organisé, je tiens aussi à le souligner. Y a toujours quelque chose qui est rappelé, c'est les personnes qui sont en soutien pour les familles, elles viennent derrière les banderoles, on vient derrière les familles. C'est systématiquement rappelé. Toutes les personnes qui ont marché auprès des familles ont forcément entendu cette phrase, parce qu'on a tendance à vouloir se mettre devant, ou voilà, c'est peut-être naturel chez l'homme. Et ça, c'est systématiquement rappelé, et ce morceau, il est exactement pareil. Il vient derrière les familles, il est en soutien. Moi, c'est en toute humilité que je l'ai présenté à Fatou. J'ai été ravi de l'accueil. Si l'accueil n'avait pas été aussi bien, aussi optimal, j'aurais pas été aussi à l'aise de te parler comme ça. Peut-être que cette invitation, je l'aurais peut-être même pas acceptée. Ça aurait été délicat. Moi, j'avais besoin de faire ce morceau. Il aurait existé quoi qu'il arrive. Mais de là à le médiatiser, à avoir un échange avec Fatou, à avoir une construction de combat commun par rapport à l'abolition de ces techniques-là, c'est un autre niveau encore.
Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que vous êtes toujours connus, hein, tous les deux. Fatou Dieng, justement, vous avez validé, hein, comme on dit dans le jargon, ce titre et décidé d'accompagner la pétition qui a déjà réuni près de 80 000 signatures. Alors racontez-nous la rencontre avec Brahi et qu'est-ce qui vous a décidé de vous dire, c'est ça tombe à point nommé, c'est ce qu'il nous fallait pour accompagner cette pétition. Racontez-nous un peu, Fatou Dieng.
C'était surtout l'initiative, le fait de me contacter, de me parler du clip. Ouais. Donc une fois que je l'ai visionné, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi, dans le sens que ça représente vraiment notre lutte. Du fait des images justement dans ce clip qui reprend depuis l'esclavage, le code noir jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ça démontre bien la formation du corps policier, de la police. Et c'est vrai que moi, c'est toujours ce que j'avais attendu des artistes qui puissent justement nous soutenir avec leurs armes pour que la lutte avance.
Alors, c'est le premier artiste à avoir réagi, Brahi ?
À ma connaissance, peut-être qu'il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu d'autres qui ont réagi pour justement venir soutenir cette campagne, cette pétition.
Alors on va en parler plus en détail de cette pétition qui a réuni, je le disais, plus de 80 000 signataires. Il y a beaucoup d'organismes, d'organisations, d'associations qui vous accompagnent. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi cette pétition, quel est son objectif ? Laissez-nous respirer.
Bah, l'objectif, c'est d'interdire les techniques d'étouffement, à savoir le clé d'étranglement, le pliage et le plaquage ventral, et aussi d'interdire les armes de guerre. Donc tout ce qui est LBD, taser, grenade aussi. Toutes ces techniques et armes qui sont employées lors de maintien de l'ordre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des techniques qui sont utilisées, ce n'est plus dans les quartiers. Ça sort dehors, ça va au-delà des quartiers. C'est-à-dire que même les manifestants, aujourd'hui, ne sont pas sécurisés du tout. C'est-à-dire qu'une personne âgée ou autre qui va aller manifester aujourd'hui pour ses droits risque de se retrouver mutilée ou blessée.
Alors, dans l'actualité, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prononcé une phrase qui a un peu choqué. Incroyable. Quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe.
Incroyable.
Quel est votre sentiment
On l'a très mal pris. Hein. Très mal pris dans le sens où on se dit c'est encore du mépris. C'est encore du mépris. On est dans le déni de justice, dans le déni au niveau des violences policières. Et comment est-ce que cet homme-là peut dire que les violences policières n'existent pas ? Et, je veux dire, ça a quand même été démontré que ça a tué pas mal de personnes, que ça a blessé, mutilé pas mal de personnes. Et surtout, même au niveau du racisme aussi, au sein de la police, aujourd'hui, il y a carrément des policiers qui dénoncent leurs collègues par rapport à des propos racistes. Et on sait très bien qu'au niveau des violences policières, c'est aussi basé sur la structuration du racisme.
Alors, on a l'impression, en fait, qu'il y a un avant, un après George Floyd, puisque c'est un petit peu après cette histoire qu'on a commencé à en parler un petit peu plus librement et un petit peu plus largement, et voir les médias en France se mobiliser. Vous, ça fait 13 ans que vous luttez. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'affaire de votre frère, Lamine Diagne ? Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots pour ceux qui ne savaient pas, par exemple ?
Ben, Lamine est décédé le 17 juin 2007. Il avait 25 ans, franco-sénégalais. Alors, il est sorti de chez mes parents pour apparemment aller, suite à un appel téléphonique qu'il a reçu. Donc, en partant, il dit à mon père qu'il n'en a pas pour longtemps, il revient dans peu de temps. Et finalement, jamais revenu. Donc, tout ce que nous, on sait, c'est que... au niveau des forces de l'ordre, ils sont intervenus parce qu'il y a eu une plainte pour tapage nocturne.
Oui.
Voilà, donc suite à ça, donc dans le dossier, ils nous disent que Lamine a violenté une femme. Donc cette femme-là, on ne sait pas du tout qui elle est. Et que c'est par rapport à ça que l'interpellation a mal tourné. Voilà, oui. Oui. Parce que si, effectivement, ces policiers étaient venus nous dire, voilà, donc l'interpellation s'est mal passée, c'est pas ce qu'on voulait, là, peut-être qu'on aurait pu comprendre les choses. Mais nous, la première chose qu'on a eue comme information 36 heures après les faits, c'est par téléphone qu'on a eu, que la nouvelle a été annoncée, et ils nous ont dit que c'était un accident sur la voie publique. Donc, accident sur la voie publique, étant donné qu'il a une moto, on s'est dit, voilà, il a dû avoir un accident de moto. Oui. Voilà. Et c'est juste le 18 juin ou le 19 juin qu'on a pu être reçu par l'IGS. Donc, l'IGS est aujourd'hui l'IGPN. Et même par rapport à ça, on n'avait pas encore été voir le corps, l'identifier pour savoir si c'est vraiment lui ou pas. Donc, de là, on est arrivé à l'IGS. Il nous a raconté... des choses à dormir debout, quoi. Où justement, tout de suite, on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On a voulu porter plainte. Ils ont tout fait pour nous dissuader de porter plainte plutôt contre X et pas contre les policiers qui étaient présents. On leur a dit non, parce que X, c'est quand on n'identifie pas la personne. Là, à partir du moment où vous nous avez dit qu'il y avait tel policier qui était présent, donc pour nous, on porte plainte contre tous. Et donc, au niveau de l'interpellation, pour revenir dessus, Lamine a été... il y a eu une tentative de clé d'étranglement avec matraque.
Ouais.
Après, il y a eu le plaquage ventral, où il a été attaché... les quatre membres ont été attachés. Il était resté sur le ventre pendant plusieurs minutes. Et c'est après là qu'ils l'ont porté pour le mettre sur le plancher du Fort Gwynpolis.
Rapidement, juste avant la pause, on continuera un petit peu juste après 13 ans de lutte pour la justice et la vérité dans cette affaire. Un accord à l'amiable a été trouvé avec l'État français. On a parlé d'une somme de 145 000 euros. Mm-hmm. Alors, quel est votre sentiment sur ça, en fait? Parce que nous, on nous a dit dans les médias, la famille a été indemnisée. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le dédommagement de 145 000, pour nous, c'est...
Les frais de justice?
Ça peut correspondre aux frais de justice. Mais c'est comme, par exemple, lorsque on est victime. Déjà, on a eu cette reconnaissance de victime. Il y a aussi la reconnaissance que la mine avait droit à la vie. Donc ça, c'est au niveau de l'article 2. Et l'article 3, c'est qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant. Donc, c'est sur ça que la CEDH s'est basée.
D'accord.
Pour justement pouvoir arrêter une décision. Et pour nous, les 145 000 euros, c'est pas ce qui va faire revenir la mine, quoi. Et c'est pas non plus ce qui va nous soulager, c'est pas ce qui va nous apaiser aussi. Et donc, pour nous, il n'y a pas eu de justice, on va dire. Parce que nous, on attend de la justice qu'il y ait un emprisonnement.
Oui.
Voilà. Donc, à partir du moment où ces fonctionnaires de police sont toujours en activité, qu'ils ont été promus, pour nous, il n'y a pas de... C'est des criminels en liberté, tout simplement. Donc, il n'y a pas de justice. On peut dire, effectivement, qu'on a rendu justice à la mine du fait qu'il y a quand même une reconnaissance qu'il n'est pas décédé seul.
On va parler de Vivoler l'association dans un instant. On va parler également de l'actualité à travers la pétition que vous pouvez toujours signer et toujours en ligne, toujours
complètement
active,
oui.
Dans un petit instant. Et puis on en profitera pour réécouter le titre Cœur Noir. On en reparle également avec vous, Brahi, dans un instant. C'est juste après la pause. Bougez pas. De retour en direct avec nos premiers invités de la matinée, Ibrahima Diallo, son nom d'artiste c'est Brahi, l'accompagne Fatou Dieng, et ils viennent nous présenter Cœur Noir et nous parler de la pétition qui l'accompagne. Laissez-nous respirer, vérité et justice, pas de justice, pas de paix. On vous disait tout à l'heure qu'elle était toujours active et qu'on attendait tous les soutiens. Vous pouvez partager la pétition, en parler autour de vous, la signer. Alors on revient, Fatou Dieng, sur cette pétition. On va aussi parler du collectif Vivoler. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Vivoler? Et dites-nous un petit peu où en est cette pétition et quels sont les objectifs au niveau des signataires, du nombre de signataires, Fatou Dieng.
Alors, Vivoler, c'est un collectif de familles de victimes et de violences et crimes policiers, qui a été créé en 2010 par ma sœur Amata.
Oui.
Et c'était surtout pour venir soutenir les familles dans leur démarche juridique ou un soutien moral, tout simplement, et pour les informer des premières choses à faire lorsqu'on est confronté à ce genre de violences policières.
D'accord.
Et à partir de là, il y a eu une première marche des familles qui a été faite, qui est une marche internationale.
Oui.
Donc, que Ramata a initié en France en 2011, où on a pu rassembler pas mal de familles de victimes. Et c'est aux alentours du 15 mars. Donc, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, chaque 15 mars, on marche avec les familles de victimes contre les violences policières et le racisme.
Bravo déjà pour cela. Et donc, cette pétition, vous l'avez lancée à quel moment?
La pétition, elle existe depuis, si je ne me trompe pas, 2017.
D'accord.
Voilà, 2017. Après, on a fait une mise à jour avec d'autres familles pour justement revendiquer, mettre en évidence les revendications des familles.
Oui.
Et on a pu aussi solliciter des artistes, des collectifs, des syndicats pour justement soutenir cet appel des familles.
Alors, l'actualité, c'est donc ce titre, ce clip qui accompagne cette pétition. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à aller sur Internet. Où est-ce qu'on l'a sur
Change. C'est sur change.org, et c'est Laissez-nous respirer.
si vous voulez signer cette pétition, n'hésitez surtout pas. Alors Brahi, on reparle du titre et du clip. Alors dis-nous un peu, parce que lorsque l'on regarde le clip, il y a des références, on le disait tout à l'heure, à l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, mais aussi des moments forts de lutte contre le racisme aux États-Unis, en France. On voit également le nom d'Adama Traoré, par exemple, de Lamine Diagne.
Bien sûr.
Toutes ces références. Alors dis-nous un peu comment tu as conçu le clip, comment il a été réalisé et quels sont les messages également, parce que quand j'ai lu le titre Cœur Noir, je me suis dit peut-être que ça fait référence au Code Noir, et d'ailleurs on voit le livre, notamment le Code Noir, dans le clip.
Exactement, c'est effectivement ça y fait référence. Pour tout dire, au début le titre ça allait pas être ça. Le titre, ça devait être je voulais quelque chose de beaucoup plus brut. J'étais vraiment dans cet état d'esprit en sortant du rassemblement de juin, et après avoir écouté Fatou, comme je le disais tout à l'heure. Le titre, je voulais qu'il s'appelle Plaquage ventral au départ, parce que j'avais pas envie qu'on passe à côté. Je voulais pas qu'on passe à côté ni de la pétition, ni de l'action. Fallait que ce soit clair. Puis après, j'ai discuté avec Willy Berquier, qui est le génie qui a fait le clip. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Je lui ai fait écouter la chanson. Deux jours plus tard, il est revenu. Quelques minutes plus tard, il est revenu. Il m'a dit « Je pense que t'as fait assez de dégâts comme ça. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je pense que t'as tout dit de ton côté au niveau textuel et interprétation. Au niveau de l'image, j'ai une idée. Je vais la travailler cette nuit et puis je te rappelle. » Et il m'a fait ses propositions d'images tout de suite. Ça a tout de suite collé. Donc c'est vraiment lui qui a eu le réflexe de mettre mes mots en images et d'aller chercher des références. Donc c'est très subtil. Je pense qu'il a plusieurs grilles de lecture, le clip. C'est ce que j'ai apprécié. Dans l'écriture, j'ai été aussi dans cette démarche. On n'a pas voulu que ce soit quelque chose qui s'écoute et qui puisse être un objet culturel périssable rapidement. On est dans une temporalité qui nous est propre. Ce morceau-là, on estime que c'est pas au bout de 6 mois qu'on va le balancer et faire autre chose, quoi. Il est accompagné d'une démarche. Et c'est comme ça qu'on l'a construit. Au niveau du travail qui a été fait sur le clip, c'est
exactement. Il y a exactement... eu beaucoup la cause contre le racisme également, parce qu'on voit des grandes figures, Nelson Mandela, on voit des grandes figures américaines notamment.
Exactement.
On voit Christiane Taubira également, qui a subi du racisme lorsqu'elle était en exercice, au ministre. Donc il y a beaucoup de profondeur, ça va au-delà des violences policières.
Ça va au-delà des violences policières, parce qu'il y a un lien. Il y a un lien que nous, peut-être, j'allais dire nous, personnes racisées, mais en fait c'est une question de personnes lucides et de personnes empathiques, en fait. Ça a plus à voir avec l'empathie qu'avec la couleur de peau. Quand on voit les gens s'offusquer parce qu'on fait directement un lien avec ce qui se passe aux États-Unis, mais on va pas, le racisme, il s'arrête pas, il regarde pas les frontières, quoi. Et partout où il y a un acte raciste qui est posé, il doit y avoir une action en face forte qui est à poser. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, peu importe, on regarde pas le territoire. Je sais pas, elle est où cette logique de dire ça n'a rien à voir, c'est aux États-Unis. Mais attendez, de quoi parle-t-on, quoi ? Donc nous, ces liens, ils sont évidents, ils sont logiques, ce n'est même pas un sujet de discussion.
Ouais.
Et donc effectivement, c'est pour ça que Willy a été dans le sens de choquer, mais avec pertinence, avec une intelligence. Ça, c'est moi qui le dis pour lui. Lui ne le dira pas. Il a trop d'humilité pour ça.
Et il y a l'avertissement au début du clip aussi.
Oui, l'avertissement est exactement au début du clip qui est essentiel, et le message de fin aussi. C'est difficile de s'autociter, c'est compliqué, mais ça fait tellement partie de l'actualité qu'on a une phrase dans le titre qui dit « Qui tue un homme tue l'humanité, mais qui tue un homme noir sera sans doute acquitté ». Et c'est fou, parce qu'il y a 2 jours, Michael Brown, un jeune adolescent de 14 ans aux États-Unis qui a été assassiné, on apprend qu'il y a une décision de justice qui est tombée et le policier qui l'a tué ne sera pas poursuivi. Ça, c'est tombé il y a 2 jours. Donc moi, au moment où j'écris cette phrase, au moment où Willy la met en image, on n'est pas des devins. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a. On n'est pas des marabouts, des grands sorciers. C'est juste que c'est systémique. S'il fallait encore une explication à une évidence, à confirmer que le racisme systémique existe, en voilà une preuve. Donc c'est ce message pour nous qui est important d'apporter sur la place publique et de faire les liens avec les choses historiques liées à l'esclavage, à la colonisation, et de poser ça très simplement comme des évidences. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Il y a des corps qui se faisaient maltraiter à une certaine époque, avec des techniques bien précises, de lynchage, horrible. Et aujourd'hui, il y a des techniques similaires qui sont appliquées, qui ont tué, qui tuent et qui vont tuer. Nous-mêmes, si on ne crée pas une action forte d'opposition à cela, ça va continuer parce que c'est systémique et ça dure depuis le temps de l'esclavage. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Si rien n'est fait, ça va continuer. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai vraiment apprécié le discours de Fatou parce que c'est très clair ce qu'il y a à faire. Pour aider les familles, il faut signer cette pétition. Moi, je viens en soutien à la famille Dieng, bien évidemment, au collectif Vivolé et à cette pétition avec ce morceau, avec toute ma petite équipe. Et c'est sûr que 80 000 signataires, c'est déjà très bien, mais on vise le million, quoi. On veut qu'il y ait le million. C'est ça l'ambition. L'ambition de ce titre, c'est d'accompagner, de soutenir la famille et d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une telle promotion autour de cet objet culturel qui accompagne le mal de ces familles-là et d'arriver à un point de résilience. Mais c'est pas une utopie, hein. Le point de résilience, on va l'atteindre uniquement si on est suffisamment en nombre et si on est suffisamment organisé, et ça passe par signer cette pétition.
Et on sait tous que c'est possible, on l'a vu. Fatou Dieng, je vais vous laisser conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent ce matin?
Qui signe la pétition, qui la partage et qui sache que ce n'est pas quelque chose d'isolé. On est tous confrontés à ça. On peut sortir aujourd'hui pour aller défendre nos droits, qu'on peut ne pas revenir. Nos enfants peuvent subir la même chose. Donc c'est vraiment pour... même nous, tout ce qu'on fait, le fait de marcher chaque année, c'est pas pour que la mine revienne. La mine ne reviendra jamais. Donc c'est surtout pour que les choses s'arrêtent, tout simplement. Que les choses s'arrêtent, que nos enfants soient préservés de tout ça, nos petits-enfants aussi, et que les choses cessent. Et que surtout, personne n'est à l'abri de ces violences policières, il faut que les choses s'arrêtent, quoi. Donc il faut vraiment continuer à soutenir les familles, de marcher auprès d'elles quand elles font des rassemblements, de participer aux cagnottes qui sont en ligne, de également...
Oui, parce qu'en fait, ce genre de lutte, ça se finance, ça demande beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on a toujours été un peu silencieux par rapport à ça, mais aujourd'hui, il faut le dire, c'est coûteux. Rien que simplement le fait d'aller en cours de cassation, ce n'est pas tous les avocats qui vont en cours de cassation, c'est un minimum de 10 000 euros. Donc vous imaginez. Je veux dire, on n'a pas mis des sous de côté pour justement subvenir à ces frais-là. Donc, il faut que les gens sachent comment on fait pour justement faire face à tout ça, pour qu'on puisse continuer à se battre pour nos droits, tout simplement. Et tout ça, il faut des sous, quoi, tout simplement. Donc, que les personnes puissent participer aux cagnottes des familles, qui puissent acheter les t-shirts aussi, parce que le fait de vendre les t-shirts, c'est pour ramener des sous dans la caisse, pour justement pouvoir préparer les commémorations, à savoir les banderoles, les pancartes, ou même simplement les frais de déplacement. Oui. Si par exemple moi, je suis de la région parisienne, je vais aller soutenir Awa Gay, qui est la sœur de Babacar Gay à Rennes, ce n'est pas gratuit. Donc il y a tout ça simplement, quoi, pour venir en soutien aux familles. Donc continuer à gonfler les cagnottes, à participer aux cagnottes et signer et partager les pétitions aussi.
Brahim, peut-être qu'on se reverra très bientôt. Déjà, on indique aux auditeurs que le clip est visible sur Internet, sur les réseaux. Comment Exactement. On fait pour voir la chanson, pour l'entendre, pour la télécharger?
Sur mes réseaux, Brahim Music, partout, sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube également. On peut le retrouver aussi, ça c'est aussi une fierté pour moi, dans la pétition, la page dédiée à la pétition. D'accord. En bas de page, on peut aussi retrouver le clip. Donc c'est une occasion de lire... ce qui a été initié par la famille Dieng, par Ramata, c'est bien de se remémorer ça, c'est bien de s'approprier l'histoire de la mine, parce qu'elle est, c'est quelque chose d'unique, hein. 13 ans de lutte comme ça, avec la France en 2020 qui est un petit peu, moi je le vois comme ça, c'est mon interprétation très personnelle, hein. Mais quand la Cour européenne vient taper sur les doigts de la France en leur disant mais qu'est-ce que vous faites avec la famille Dieng en fait, et qu'elle se dit effectivement il y a quelque chose, on a menti comme un petit garçon qui sait pas vraiment où se mettre et qui décide de payer, c'est mon interprétation, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a un vrai aveu de dire que nos agents sont coupables. C'est ce qu'il faut entendre en 2020, la décision qui a été prise d'indemniser la famille, il y a aussi ça dedans. C'est aussi, il y a aussi un caractère qui est pas franchement heureux, c'est que la France a préféré payer quand même que de se dire à un moment donné qu'elle va condamner des officiers qui ont agi comme des monstres. Et ça, faut aussi le voir dans la lecture de cette décision. Je voulais juste te dire que Ces frères au prod qui ont composé la musique, Willy Berquet, j'ai cité son nom tout à l'heure, qui a fait le clip, et je pense qu'ils sont en alignement total avec tout ce qu'on vient de dire. Nous, c'est pour le soutien des familles. Il y a quelque chose que Fatou me rappelle souvent quand on échange. Parce que Fatou, faut savoir que c'est mon enseignante dans la lutte. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore et elle m'apprend beaucoup. Elle me dit surtout. C'est surtout pour les autres familles. Donc là, moi j'aurais terminé sur ça, c'est que j'ai une pensée vraiment à toutes les familles de victimes, une pensée à elles. Et quand on fait la promotion de ce morceau, on fait la promotion de la pétition, on fait également la promotion des pétitions des autres familles. Je pense à la famille Chouvia, je pense à Ibrahim Abba, je pense à la famille Gay, voilà.
Merci pour ces engagements. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui tous les deux. Merci. On va se quitter avec le titre Cœur Noir et je vous dis à très bientôt sur l'antenne d'Africa.
Merci.
Merci.
D'être noir encore, sur un quiproquo des balles te traversent le corps. J'ai posé mon champ lexical sur un champ de coton. J'ai vu mes lettres maltraitées sur la plantation. Abolition de l'esclavage et de son héritage. Effacer de l'inconscient la construction du sauvage. Bête à dompter, animal à mettre en cage. Homicide surprise organisé par le voisinage. Qu'elle en fait couler du sang, cette couleur de peau. Du sol de Géorgie aux terres du profond Congo. Le rêve américain n'a cesse de finir en lambeaux. Quand la séance de footing se transforme en tombeau. Bientôt le piège se referme. L'expression de la haine maximale est à son terme. Juste un mot de poésie pour un mot d'herberie. Étrange fruit, ces corps noirs pendus aux États-Unis. Un monde abruti en sécheresse d'empathie. Où il y a moins de bibliothèques qu'il n'y a d'armurerie. La lumière de son âme vous a-t-elle brûlé les yeux? Au point de ne pas avoir le choix que d'ouvrir le feu. Perpétuer l'idée de la race inférieure. Avec le privilège d'être protégé par un procureur. Est-ce que rien ne change pour le noir africain? De la conférence de Berlin, l'indécence de Guerlain. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. On est toujours dans le même sujet. Tenter de vivre ensemble, c'est toujours le même projet. On est plein d'espérance, d'amour et de rêves à souhait. Mais la tolérance se prend toujours les mêmes crochets. Les traités de paix, on les remet à la semaine prochaine. On procrastine car on est motivé que par la haine. L'obsession de la domination, le grand problème. La hiérarchie des races, le mépris en théorème. Inscrit dans les mœurs et les organes du système. Inscrit dans les cœurs et dans les crânes des skinheads. Attention, les discriminants prennent une forme nouvelle. Mais dans les faits, le pouvoir nous impose les mêmes barèmes. Rythmé par le bruit des chaînes. Du fond de mon ADN, j'ai composé ce blues moderne. Les balles des officiers préfèrent la couleur ébène. Les violences policières écrasées sur mon abdomen. Je suis en détresse comme Adama. Les SOS finissent en PLS ou dans le coma. Dans le cauchemar, naviguer dans le coltar. Statistique des contrôles abusifs, je suis dans le quota. J'ai ton genou sur ma nuque, je suis dans le Minnesota. Je suis encore un esclave, ça n'a pas bougé d'un iota. J'ai les yeux gorgés de sang et le cœur vidé. Je vous entends plaisanter, mais moi je ne peux plus respirer. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial. Le plaquage ventral est ancestral. À bord d'un négrier, je suis mort au fond d'une cale. L'histoire ne fait que se répéter de manière infernale. La haine est raciale, procédé bestial.
fait des bestiales.
Qui tue un homme tue l'humanité, mais qui tue un homme noir sera sans doute acquitté. Qui tue un homme